Le choix de lecture de Frédéric Bruyas, mise en musique par Philippe Fest.
Il faisait encore nuit et il pleuvait. Le garçon passa devant le tramway bar. Comme il avait presque fini sa tournée, il entra boire une tasse de café. C'était un bar ouvert toute la nuit, tenu par un homme aigri et avare, nommé Léo. Après tant de rues désertes, hostiles, le bar avait quelque chose de gai et d'amical. Le long du comptoir, il y avait deux soldats, trois ouvriers de la filature, et tout à fait dans le fond, un homme tellement voûté que son nez et la moitié de son visage plongeaient dans son pichet de bière. Le garçon portait un casque de cuir, comme en ont les pilotes. En entrant, il dégrafa le côté droit de sa mentonnière et le releva au-dessus de sa petite oreille rose. Il arrivait souvent que quelqu'un lui dise un mot aimable pendant qu'il buvait son café. Mais ce matin-là, personne ne parlait. Léo ne fit même pas attention à lui. Il allait sortir, après avoir payé, quand il entendit une voix qui l'appelait. « Fils ! Hé ! Fils !» Il se retourna. L'homme qui était dans le fond lui faisait signe d'approcher. Il avait soulevé la tête et semblait brusquement très heureux. C'était un homme grand et pâle, avec un long nez, des cheveux carottes fanées. Hé, fils ! Le garçon approcha. Il devait avoir dans les 12 ans, petit pour son âge, une épaule plus basse que l'autre à cause de la sacoche qui contenait les journaux, un visage banal, couvert de taches de rousseur, et les yeux ronds d'un enfant. Monsieur ? L'homme lui posa une main sur l'épaule, puis lui saisit le menton et le fit tourner lentement de gauche à droite. Le garçon recula d'un bond, mal à l'aise. Hey, « Hé !» dit-il d'une voix perçante. « Vous voulez quoi exactement ?» Un grand silence s'était fait dans le bar. L'homme dit doucement « Je t'aime. » Au comptoir, les hommes s'étaient mis à rire. Le garçon hésitait, les sourcils froncés. Il regarda Léo, et Léo avait un sourire ironique et désabusé. Il se dit qu'il valait mieux rire, lui aussi. Mais l'homme était triste et grave. « Je ne voulais pas me moquer de toi, fils. Assieds-toi. Prends un verre de bière avec moi. J'ai quelque chose à t'expliquer. » Le petit livreur de journaux glissa un œil prudent vers les hommes du comptoir pour savoir ce qu'il fallait faire. Mais ils étaient revenus à leur bière ou à leur petit déjeuner et ne s'intéressaient plus à lui. Léo posa sur le comptoir une tasse de café et un pot de crème. « Attention, dit-il, c'est un mineur. » Le petit livreur de journaux se hissa sur un tabouret. L'oreille qui n'était plus couverte était très petite et très rouge. L'homme le regardait en remuant la tête. « C'est important, dit-il. » Il fouilla dans sa poche, en sortit quelque chose qu'il posa dans la paume de sa main. « Regarde attentivement. » Le garçon écarquilla les yeux, mais il n'y avait rien à regarder attentivement. Une simple photographie dans la grande main sale de l'homme, la photographie d'une femme au visage flou. Seul le chapeau et la robe étaient nets. « Vu ?» dit l'homme. Le garçon fit signe que oui. L'homme lui montra une seconde photographie. C'était la même femme sur une plage, en maillot de bain. Un maillot qui lui faisait un gros ventre. C'est la seule chose qu'on remarquait. « Bien regardé, » dit l'homme. Se penchant le plus possible, il ajouta « C'est ma femme. « Morte ?» demanda le garçon. L'homme hocha doucement la tête, plissa les lèvres comme s'il allait siffler et hésita longtemps avant de répondre. « C'est de l'amour que je vais parler, » dit l'homme. « Pour moi, c'est devenu une science. » Le garçon glissait déjà de son tabouret, mais l'homme pointa l'index dans sa direction. Il y avait quelque chose en lui qui arrêta le garçon et l'empêcha de s'en aller. « Je me suis mariée il y a 12 ans avec la femme des photographies. Elle a été mon épouse pendant 1 an, 9 mois, 3 jours et 2 nuits. Je l'aimais. Oh oui, je l'aimais. Je croyais qu'elle m'aimait aussi. J'étais ingénieur des chemins de fer. Elle avait tout ce qu'elle voulait à la maison, le confort et les à côté. Il ne me serait jamais venu à l'idée qu'il pouvait lui manquer quelque chose. Tu sais ce qui est arrivé ? Elle est partie. Un soir, je suis rentrée. La maison était vide. Elle était partie. Avec un type ? Demanda le garçon. L'homme reposa sa main sur le comptoir. Bien sûr, fils. Une femme ne s'en va pas comme ça si elle est seule. Le bar était calme. Il y avait la pluie au dehors, noire et douce, qui tombait sans fin. Quelqu'un qui perçoit les choses, reprit l'homme. C'est comme ça depuis que je suis née. Les choses laissent une empreinte en moi, l'une après l'autre. Un clair de lune, la jambe d'une jolie fille. Mais toujours, l'une après l'autre. Et chaque fois qu'une chose m'a touchée ainsi, j'ai l'impression étrange qu'elle s'éparpille autour de moi. Aucune ne paraît capable de se suffire à elle-même ou de s'harmoniser avec les autres. Les femmes, j'en ai eu quelques-unes. Pareil, le plaisir s'éparpillait très vite. J'étais quelqu'un qui n'avait jamais aimé. Et j'ai rencontré cette femme. J'avais 51 ans. Elle a toujours prétendu qu'elle en avait 30. Je l'ai rencontrée dans une station-service. 3 jours plus tard, on était mariés. Peux-tu imaginer ce qui s'est passé pour moi ? Je suis incapable de l'expliquer. Toutes les choses qui avaient laissé leur empreinte en moi depuis ma naissance se trouvaient soudain rassemblées autour de cette femme. Plus d'éparpillement, l'impression d'une harmonie parfaite dont elle était le centre. L'homme s'interrompit brusquement, en caressant son grand nez. Il dit à mi-voix, d'un ton mécontent. J'explique mal. Voilà exactement ce qui s'est passé. Toutes ces merveilleuses impressions, tous ces plaisirs secrets faisaient partie de moi. Mais en désordre, cette femme a su en faire le dessin de mon âme. Les divers fragments de moi-même se sont cristallisés en elle et je suis devenu un tout. Tu me suis mieux maintenant ? Vous avez essayé de la faire revenir à la maison ? L'homme parut ne pas entendre. Tu peux comprendre. Tu peux commencer à comprendre ce qui s'est passé quand elle m'a quitté. Et vous n'avez jamais pu remettre la main dessus ? Le garçon ne savait pas très bien que penser. Il y avait autant de curiosité que de méfiance sur son visage d'enfant. Comme livreur de journaux, il débutait à peine. C'était encore bizarre pour lui d'être ainsi en ville, dans le petit jour sombre, inquiétant. « J'ai essayé beaucoup de choses pour la faire revenir, » dit l'homme. « Je l'ai suivie à la trace un peu partout. J'ai été à Tulsa, où elle avait des parents. » Et à Mobile, j'ai été dans toutes les villes dont elle m'avait parlé. J'ai recherché tous les hommes qu'elle avait connus avant moi. Tulsa, Atlanta, Chicago, Chiho, Memphis. J'ai battu le pays pendant près de 2 ans pour essayer de lui remettre la main dessus. C'est curieux. Le début de l'amour. Les premiers temps, je n'avais qu'une idée. La ramener à la maison. C'était devenu une obsession. Un peu plus tard, j'ai voulu retrouver mes souvenirs. Sais-tu ce qui s'est passé ? Non ? Je m'allongeais sur mon lit. J'essayais de penser à elle. Et mon cerveau était vide. Impossible de la revoir. Je sortais ses photographies. Je les regardais. Rien à faire. Le vide. Tu comprends ça ? L'homme agita la main doucement, comme s'il chassait les mouches d'un coup d'éventail. Ses yeux verts fixés avec une attention extrême, le visage banal du petit livreur de journaux. Brusquement, un éclat de verre sur le trottoir, une pièce de 5 cents dans un jukebox, une ombre sur un mur la nuit, et je retrouvais mes souvenirs. Ça m'arrivait dans la rue sans prévenir. J'avais envie de pleurer ou de me cogner la tête contre un bec de gaz. Tu me suis ? Un éclat de verre ? Dit le garçon. N'importe quoi, je tournais en rond. J'étais incapable de deviner quand ça allait m'arriver ni comment. On se dit qu'on doit pouvoir se fabriquer une armure, mais le souvenir n'attaque jamais de face. Il prend des chemins détournés. J'étais à la merci de tout ce que je voyais, de tout ce que j'entendais. Ce n'était plus moi qui fouillais le pays pour la retrouver. C'était elle qui me poursuivait, à l'intérieur de mon âme. Elle me donnait la chasse, à moi. Tu te rends compte ? À l'intérieur de mon âme. Le garçon finit par demander « Vous étiez où, à ce moment-là ?» J'étais un malade sur le point de mourir, une sorte de petite vérole. Je me suis saoulée, fissa, je le confesse, et j'ai forniqué. J'ai commis tous les péchés dont j'avais envie. J'ai honte de le confesser, mais j'y suis obligée. Quand je repense à cette période, j'ai comme de la glace dans le cerveau. C'était horrible. Il baissa la tête, jusqu'à cogner du front le comptoir. Il resta ainsi quelques instants, avec sa broussaille de cheveux carottes sur la nuque, ses longues mains croisées, aux doigts joints, comme en prière. Quand il se redressa, il souriait. C'est arrivé aux environs de la 5e année. Le vrai commencement de ma science. Difficile d'en donner une explication scientifique, fils. En bonne logique. Je crois qu'on s'est tellement couru après, tous les deux, qu'on a fini par être complètement emmêlés et par s'écrouler en lâchant prise. La paix, un vide étrange et merveilleux. C'était le printemps à Portland. La pluie tombait chaque après-midi. Je restais sur mon lit jusqu'au soir et la science me pénétrait peu à peu. Écoute bien ce qui est arrivé. J'ai médité sur l'amour et peu à peu, j'ai fini par comprendre d'où venait notre erreur. Quand un homme tombe amoureux pour la première fois, de quoi tombe-t-il amoureux ? D'une femme. Et il ne possède pas la science. Il ne possède rien de ce qu'il faut pour entreprendre le plus périlleux des voyages qui soit sur la terre de Dieu. Il tombe amoureux d'une femme. Exact, fils. Ouais ? Répondit vaguement le garçon. Il commence à apprendre l'amour dans le mauvais sens. Il commence tout de suite par l'apogée. Comprends-tu pourquoi c'est si désolant ? Sais-tu par où l'homme devrait commencer ? Le garçon était attentif, tout petit sur son tabouret. Il remua doucement la tête. Le vieil homme se pencha et murmura : une pierre, un arbre, un nuage. Pendant 6 ans, j'ai fait ce chemin tout seul. J'ai mis ma science au point. Maintenant, fils, je suis un maître. Je peux aimer n'importe quoi, sans même y penser. Je vois une rue pleine de monde. Une admirable lumière me pénètre. Je regarde un oiseau dans le ciel. Je croise un voyageur sur la route. Tout, fils, tout le monde, tous étrangers et tous aimés. Tu te rends compte de ce que représente une science comme la mienne ? Le garçon était raide, les mains agrippées au comptoir. Il finit par demander : cette femme, vous l'avez retrouvée ? Quoi, fils ? Tu dis quoi ? Le garçon reprit timidement : je veux dire, êtes-vous tombé amoureux d'une autre femme ? Le vieil homme se détourna. Pour la première fois, il y avait une lueur d'égarement dans ses yeux verts. Il souleva le pichet de bière, le vida. « Non, fils, ce sera le dernier stade de ma science. J'avance prudemment, tu vois. Je ne suis pas encore prêt. » Le vieil homme était déjà sur le pas de la porte. « N'oublie pas. N'oublie pas, fils. » « Je t'aime. » Il inclina une dernière fois la tête. La porte se ferma derrière lui. Le garçon resta silencieux un long moment. Il arrangea sa frange sur son front, promena son petit index crasseux sur le bord de sa tasse vide. Puis, sans regarder Léo, il demanda « Il était saoul ?»«
Non », répondit sèchement Léo.
« Alors, c'était un foutu drogué ?»«
Non ».
Le garçon se décida à regarder Léo. Il y avait une sorte de désespoir sur son petit visage banal. « Alors il était fou ?»« Léo, tu penses qu'il était fou ?»
Mais le doute l'envahit.
« Léo, oui ou non ?»
Léo n'avait aucune envie de répondre. Il tenait un café ouvert la nuit depuis 14 ans. Il estimait s'y connaître parfaitement en matière de folie. Il y avait les gens de la ville et ceux qu'on ne connaît pas, qui entrent par hasard comme échappés de la nuit. Il connaissait les manies des uns et des autres. Mais il n'avait aucune envie de satisfaire la curiosité de cet enfant. Il resta donc muet, le visage impassible. Alors, le garçon referma le côté droit de sa mentonnière. Au moment de tourner le dos pour s'en aller, il fit le seul commentaire qui lui parut indiscutable. La seule remarque qui ne risquait pas de faire naître le rire ou le mépris. En tout cas, il a beaucoup voyagé.